Bonjour, c'est Raphaël Marchal qui vous parle. Je suis journaliste culinaire et je termine toujours mon assiette. Bienvenue sur À côté de la plaque, le podcast qui parle de tout, sauf de bouffe. On connaît des chefs, leur parcours, leur terroir, leurs produits, leurs plats signatures, mais est-ce qu'on les connaît eux ? Leurs envies, leurs phobies, leurs croyances, leurs faiblesses, leurs lubies, leurs secrets, leurs combats, leurs drôleries, leurs contradictions, rien n'est moins sûr. Alors asseyez-vous et écoutez, deux fois par mois, sur Business of Bouffe.
Bonjour à tous, je suis comme d'habitude avec mon associé Daniel qui depuis le lancement de Business of Bouffe rêve de transformer notre podcast en chaîne audio et pour ça de diffuser plusieurs émissions et parfois des émissions présentées par d'autres personnes. Bonjour Daniel.
Bonjour Philibert, oui, j'y crois beaucoup au format audio et je suis ravi que notre invité aujourd'hui nous rejoigne dans cette aventure.
Et justement Daniel, dans cet épisode 0, on va présenter une nouvelle émission qui sera diffusée sur Business of Bouffe mais qui sera animée par une journaliste culinaire qu'on apprécie beaucoup. Elle est connue pour toujours finir ses assiettes. Son blog En Randonnion l'a rendu célèbre. Et notre partenaire dans cette nouvelle histoire, cette nouvelle aventure est Raphaël Marchal. Bonjour Raphaël.
Salut Philibert, salut Daniel.
Alors tout d'abord Raphaël, Daniel et moi, on est évidemment ravis de t'avoir avec nous dans cette nouvelle aventure et de créer ensemble un nouveau podcast À côté de la plaque, on va y revenir. Et je me souviens en effet de l'épisode qu'on a enregistré ensemble il y a quelques semaines, on avait évoqué tes prochains projets et après l'enregistrement, on avait discuté en off de l'idée de monter un podcast ensemble et tu avais adoré l'idée. Et
est-ce que tu... Ah ouais.
Ouais, et justement, ben voilà, est-ce que tu veux nous expliquer ce qui t'a plu tout de suite dans cette idée, dans ce projet ?
Oh, bah, ce qui m'a plu, c'est que moi, je suis une feignante. Alors du coup, vous m'avez eu quand vous m'avez dit on va s'occuper de toute la partie chiante.
Ah, c'est
de
bien.
Toute la partie... technique, logistique, montage, matériel, communication. Bon, ouais. J'allais dire graphisme, mais finalement, j'ai trouvé. Non, en fait, je dis ça en plaisantant, mais c'est totalement la vérité. C'est-à-dire que moi, je fais partie de ces gens qui trouvent formidable d'avoir un podcast, mais sans finalement se taper toute la partie...
La partie relou.
Voilà. Donc moi, ce qui m'amuse, c'est le casting, les questions, enfin, la partie que je sais faire. Et je vous laisse le reste.
Ah, merci, bah, merci Raphaël.
C'est super sympa. tu valorises vachement notre travail, là.
Non, mais je plaisante, mais c'est vrai que quand on a fait le premier podcast ensemble, moi déjà, je vous écoutais avant le confinement. Ouais. J'ai toujours trouvé que vous aviez un bon angle parce que vous n'êtes pas tous les deux de la bouffe au départ, donc vous avez des questions intéressantes parce que différentes. Et l'angle de parler du business derrière est toujours intéressant et souvent, nous, journalistes culinaires, on n'ose pas trop se mouiller sur toutes ces questions. Donc ça, c'est cool de parler de ça parce que c'est rare et que c'est souvent touchy en France et dans le monde de la bouffe.
Ouais.
Et puis, je m'y attendais pas du tout. Moi, je pensais juste faire un épisode avec vous. Et quand vous m'avez dit à la fin, est-ce que ça te tenterait qu'on parte pour une aventure, j'étais ravie. Et puis surtout, ça s'est fait hyper vite. On a été d'accord sur tout. Moi, je suis surexcitée par ce projet, ouais.
Bah, top. Et du coup, est-ce que tu pourrais expliquer à nos auditeurs de quoi s'agit ton podcast, comment il va fonctionner, quelle fréquence, quelle est la ligne édito, et peut-être déjà quelques invités que tu as en tête?
Que je vais dévoiler. Bah, oui, bien sûr. En fait,
Si tu veux.
Oui, bien sûr, je vais en donner quelques-uns. Ça fait un petit moment qu'elle me trotte dans la tête. C'est peut-être à force d'interviewer les pâtissiers, les chefs, les producteurs, enfin toutes les personnalités de la bouffe, je me rends compte que on a un peu tendance à se dire, bon, bah, lui, c'est la bouffe, donc on va lui parler que de bouffe. Et puis, en fait, il y a des gens absolument passionnants qui, certes, sont des cuisiniers merveilleux ou des éleveurs formidables, mais qui ont aussi des avis sur d'autres choses et des trucs à dire.
Ouais.
Et en fait, c'est un sujet que j'avais proposé en comité de rédaction, qui est une façon pompeuse de dire qu'on se retrouve avec les équipes de food pâtisserie et food cuisine dans un palace pour enfiler plein de gâteaux et parler des prochains sujets, tu vois. Et donc, j'avais dit à ma rédac chef Julie que je trouvais l'idée sympa de parler de tout, sauf de pâtisserie ou de cuisine avec les chefs. Mmh. Et en fait, ça a mis un peu de temps à germer dans sa tête aussi. Et puis, elle a fini par me dire, écoute, vas-y, on tente. Et en fait, j'ai fait les 4 premiers pour le magazine avec Bertrand Grébeau, Yann Couvreur, Christophe Michalak et Juan Arbelaez. Et en fait, en faisant les interviews donc pour le mag, pour une retranscription écrite. Et parfois réécrite un peu, je me disais c'est dommage parce que leur réaction, leurs hésitations, leur gêne est palpable au téléphone et c'est dommage de pas avoir la voix par écrit, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est de les bousculer, parce que vous allez dévoiler une partie de la trame des questions et vous verrez que pour des chefs qui ont l'habitude de parler que de produits, de cuisine et de plats signature, parfois c'est un peu perturbant. Et je me suis dit, non mais c'est vraiment dommage, parce que c'est peut-être pas le, enfin c'est un format qui est adapté, mais qu'on peut pousser plus loin. Et en fait, je crois que j'enregistrais avec vous le lendemain de l'une de ces interviews, je sais plus laquelle. Ouais. Et donc, quand vous m'avez dit à la fin, bah écoute, si t'as des idées ou des trucs que tu veux proposer, nous, on est partant pour faire un podcast avec toi, j'ai dit oui, oui, oui.
Ouais, c'est clair, c'est pour voilà. Ça, c'est ce que j'ai dit, hein. C'est que tout de suite, t'as été au gros taquet sur le sujet. Mais je pense que c'est vraiment bien, parce que comme tu le dis, ça permet d'avoir encore plus en live l'émotion et de retranscrire l'émotion de l'invité, parce que c'est vrai que par écrit, bah, ça transforme, on sent moins ça. Alors que là, dans l'audio, on va vraiment voir en réel comment il réagit à ces questions qui peuvent être un peu perturbantes. On va voir si nous, on te perturbe tout à l'heure avec les questions qu'on va te poser.
Oui, parce que là, je fais la maline, mais je crois que...
Et tu peux nous dévoiler déjà quelques invités que tu as en tête pour le premier épisode ?
Oui, bien sûr. Alors, pour le premier épisode, ce sera Guillaume Sanchez, un mec assez extraordinaire et qui, pour le coup, au-delà d'être un fou taré de cuisine, de fermentation, de... conservation, autant sur la cuisine que sur les desserts, qui sont quand même des desserts de cuisinier, de génie créatif. Il a vraiment, parfois même on s'engueule, hein, un avis sur tout, mais tout, voilà. Et donc c'est quelqu'un qui a plein de choses à dire, justement en dehors de l'univers de la bouffe, même si parfois, en fait, sans s'en rendre compte, on revient un peu sur le sujet, mais pas de la même façon. Et donc, je trouvais important qu'il inaugure, d'autant que c'est un de mes meilleurs copains depuis longtemps maintenant. Ouais. Et donc, voilà, c'est l'un de mes petits projets perso, donc c'était important de commencer avec lui. Et voilà, ensuite, il y aura, je ne sais pas dans quel ordre, mais Céline Femme, ouais, que j'aime beaucoup, qui pour le coup n'a pas de restaurant à elle, mais chef à domicile, itinérante, et pareil, il y a énormément de choses à dire sur plein d'autres sujets. Il y aura Jacques Génin, qui est quand même mon pâtissier, je peux le dire, même si ça se dit pas trop, mais c'est je crois que c'est vraiment mon pâtissier préféré. Et lui qui est trop content de parler d'autre chose que de gâteau, parce qu'il en veut plus.
Ah bon, bah c'est super.
Et puis après, je peux déjà vous dire qu'il y aura Simone Tondo, il y aura Jean-François Piège. Voilà, je vous dis pas tout pour l'instant.
Un très très joli casting.
Très beau casting. Et Raphaël, bon, c'est l'épisode 0, mais tu savais pas, on a gardé une petite surprise pour toi. C'est qu'en fait, on a eu accès à ta trame, évidemment, la trame que tu vas utiliser comme base pour ton podcast. Mmh. Et on s'est dit qu'il serait sympa de l'appliquer à toi. Donc, de parler des tout, sauf des bouffes. Est-ce que tu es prête?
Voilà. Je suis prête.
Mais promis, on coupera rien.
Ouais, bah, je me suis permis aussi de twister légèrement ta trame, parce que ouais, bon, appliquer ta trame telle qu'elle était, c'était chouette, mais voilà, j'ai voulu quand même la rendre un peu plus. Un côté brésilien, un côté petit latin.
Il y a eu un débat entre nous, mais voilà, il y a quelques
questions
sur le style de Daniel.
Ça va bien se passer, Raphaël. On commence juste première question. Quel est pour toi les meilleurs souvenirs de ton enfance?
C'est l'acrobranche, les parcs d'attractions. C'est vrai que si t'enlèves toute la bouffe de mon enfance, il reste la manche.
Voilà, c'est fini, c'est tout.
Voilà, je crois que c'est tout.
Bon, bah, deuxième question alors. Il y a là une question 100% de ta trame, c'est est-ce que tu es famille ?
Ah ouais. Bah, moi, je suis fille unique, mais mes parents, c'est mes meilleurs potes. On est hyper proches. Là, je les ai pas vus depuis 3 mois et demi, c'est tragique pour moi. Mmh.
Ouais. Et qu'est-ce qu'on ignore de toi, Raphaël ?
Que je suis un garçon, en fait.
Ah là, ça, c'est génial.
Là, on a un scoop.
On ignore de moi. Alors, moi, je suis nulle en secret. J'ai tendance à tout déballer. Qu'est-ce qu'on ignore de moi ? Un truc qui fait rire ma meilleure copine, c'est que je. C'est pas drôle, hein, mais ça la fait rire. Je suis un bébé éprouvette. C'est un truc que les gens savent pas. Et donc, quand je dis une bêtise ou quand j'oublie, elle me dit « Ouais, mais ça, c'est la pipette, ça a merdé. »
Ah ouais.
Voilà. Donc, c'est pas très drôle comme blague, mais ça fait beaucoup rire Camille.
Tu peux te le permettre et ta meilleure amie peut se le permettre. Mais ça,
voilà.
C'est un peu...
voilà.
Autre question qui est dans ta trame, c'est qu'est-ce qui t'agace dans la vie ?
Ah ouais, celle-là, j'aime bien la poser parce qu'ils ont tous des réponses différentes, mais c'est vrai que je me la suis jamais posée à moi-même.
C'est l'occasion.
Ouais, je réfléchis. J'aime pas les gens qui serrent la main trop fort, tu sais.
Genre Trump.
Moi, les eaux, ça m'insupporte. J'aime pas les gens qui mettent trop de parfum non plus. J'aime pas l'eau trop froide. Et j'aime pas les gens qui te disent qu'ils laissent le noyau dans les clafoutis parce que ça donne plus de goût alors que c'est tellement faux.
C'est précis, hein. C'est bien comme réponse. J'aime beaucoup.
Moi, j'étais parmi ceux qui croyaient que c'était vrai en fait.
Ouais. Alors que c'est scientifiquement prouvé, ça sert à rien le noyau dans la vie.
Et qu'est-ce qui te fait pleurer, Raphaël ?
Oh là là, alors là, tout. J'ai pleuré devant Lassie, le dessin animé avec le yinche abandonné. Et en rentrant à la maison, je te parle de ça comme si j'avais 4 ans, mais j'avais 20 ans. Hein. Ah, et en rentrant à la maison, j'ai rechialé en parlant du film. Quoi. Je suis très, très... Devant les films, je suis vraiment... En plus, j'adore ça. J'adore pleurer, donc je crois que c'est pas que je me force, mais genre, je suis contente. Et sinon, non, mais ça peut m'arriver de. Alors, c'est pas des grosses larmes comme devant la scie, mais je peux pleurer de bonheur parfois. Un truc que je faisais pas trop plus jeune, mais ça m'arrive parfois de voir une scène jolie ou de penser à un truc joli et d'avoir des petites larmes de joie. Ouais, c'est quand même un kiff, ça. Ouais.
Autre question, est-ce que tu es féministe ?
Alors c'est une bonne question. Oui, bien sûr que je suis à fond pour tous ces combats très très d'actualité sur en fait se partager le temps de travail équitablement, les soirées, le jour où j'aurai des enfants, partager équitablement les gardes et tout.
Mon mec est prévenu.
Ouais, voilà. Mais je me reconnais pas toujours dans tous les combats parfois un peu extrêmes. En fait, je trouve que de toute façon tous ces termes parfois ont des limites et c'est vrai que certaines manifestations, certaines actions poussées à l'extrême font que je me reconnais moins. Mais oui, je pense que ma génération sera celle qui va vraiment faire avancer ça et je suis archi pour, ouais. C'est pas très clair comme réponse, hein. Ouais, pas très clair.
Ouais, c'est pas elles sont pas faciles tes questions, hein, tu t'en rends compte.
J'avais marqué ça. Et tu as quelle est ta plus grande phobie ou angoisse ?
Ah, je peux pas le dire parce que j'ai trop peur de le dire parce que les gens ils vont vouloir me faire une blague et donc je le dis jamais à personne. J'ai un truc qui me fait cauchemarder toutes les nuits. Mais je le dis pas parce que un jour il y a un con qui va se dire ah, c'est trop marrant, mais on va lui mettre dans ses chaussettes. Donc je le dis pas.
Et tu enfin, peux je peux même pas nous dire de quel type de quel type de situation ou de truc s'agit en fait cette phobie.
Ouais, là en l'occurrence c'est une bête, ouais. C'est une bestiole. Mais par exemple là il y a une nouvelle attraction à Roulantica. De Europa Park en Allemagne, là, le parc d'attractions, et c'est un truc. J'ai vu la vidéo. Je pense qu'il faudra me payer très cher pour le faire. C'est genre t'es dans un tube et debout et en fait ça s'ouvre sous tes pieds et tu tombes d'un coup dans un truc d'eau. Ça a l'air horrible, horrible. Voilà, tout ce qui est saut en parachute et tout, je suis pas trop chaud, quoi.
Saut et l'élastique, tout ça, c'est pas pour toi, quoi.
Non, non, non.
Un trait de caractère dont tu aimerais te débarrasser ?
Alors, c'est pas joli, joli, mais je vais vous dire la vérité. Parfois, j'ai du mal à, comment dire, si les gens pensent très, très différemment de moi et que je suis persuadée d'être dans la vérité, je suis pas très tolérante. Mais sur des trucs à la con, hein, sur des sujets super basiques, genre... est-ce qu'il faut manger le matin si on n'a pas faim ? Enfin, tu vois, je parle pas du tout de trucs graves, mais parfois, ouais, je manque un peu de flexibilité, quoi, sur quelqu'un qui va pas aimer un film que j'ai adoré. Je peux manquer de tolérance, quoi, alors que c'est bête, en fait, chacun ses trucs, mais faut que je travaille là-dessus parce que, ouais, parfois, je suis un peu genre, bah non, en fait, c'est formidable, t'es con, quoi, tu vois ? Alors qu'en fait, bah non, on pense tous nos trucs, mais c'est vrai que ça, c'est un vilain défaut.
Là, on va parler d'un sujet tabou. En fait, tu disais au début que chez Business of Bouffe, ce qui t'intéressait, c'est qu'on parlait du business, qui est un sujet qui est difficile à évoquer, souvent ouais. Pas assez évoqué dans la bouffe. Donc, ouais. Est-ce que tu aimes l'argent et quel est ton rapport avec l'argent ?
Alors, moi, je n'ai pas de limite quand il s'agit de faire des cadeaux. Mais c'est vrai, hein, ça fait vraiment la meuf qui veut dire qu'elle est généreuse et tout, mais c'est vrai que depuis toujours, c'est important d'avoir des sous parce que je suis trop contente à l'avance de faire des cadeaux à mes parents à Noël, à ma grand-mère, à mes cousines, à mes copains, à mon amoureux. Voilà, c'est un truc. Donc j'ai toujours peur d'être à découvert pour ça. Parce qu'en soi, je suis pas une grosse. Enfin, j'achète pas beaucoup de fringues, de maquillage, je vais pas chez le coiffeur, je m'achète pas des pompes, j'ai pas de bijoux, je suis pas très sac. En vrai, tous ces trucs-là, oui, bien sûr, j'ai des dépenses dans la bouffe et dans les vacances, mais c'est tout. Mais c'est vrai que mon gros, gros plaisir quand j'ai un bon mois, parce que clairement, moi, ça dépend un peu des mois entre l'un et l'autre, c'est de faire des cadeaux. Et donc, j'ai toujours gagné à peu près ma vie. J'ai fait beaucoup de babysitting de 13 à 18-20 ans. J'ai donné des cours, j'ai fait du traiteur à domicile, etc. Puis après, j'ai eu l'âge de travailler pour de vrai. Et puis ensuite, j'ai eu mon entreprise et tout. Mais c'est vrai que c'est pas ma priorité. Pour moi, c'est très important d'avoir du temps libre, d'être heureuse, de voir... Donc, je serai jamais la fille qui travaille à H24 pour gagner le plus d'argent possible. Mais ça me rendrait triste de ne pas en avoir et de ne pas pouvoir inviter au resto ou faire le cadeau que je voulais faire. Voilà.
Réponse très complète. Est-ce que tu as une passion inexplicable? Très bonne question encore, une fois de plus.
Ouais,
elle est bien cette trame, elle est très très bien cette trame.
Ouais, cette question. J'adore les jeux de société. J'adore les peignoirs aussi. Parce qu'en fait... C'est vrai, j'en ai jamais eu en fait, et donc là depuis 2 ans, je demande ça à tous les anniversaires et tous les Noëls, c'est-à-dire 2 anniversaires et 2 Noëls.
Tu vas avoir une belle collection de peignoirs alors.
Bah du coup j'en ai 2 parce que les 2 autres fois ça n'a pas marché, j'ai pas eu ça.
Ah bon, d'accord.
Je réfléchis. Quand j'étais petite, je collectionnais les miniatures et je fabriquais des pièces de maison en miniature. Mais bon, ça m'est passé. Ouais, elle est relou, cette question, en fait. Bah, mais c'est marrant parce que... Genre Bertrand Grébeau, il m'a dit « Ouais, moi, j'ai une passion pour les métros et les trains. Je connais par cœur les modèles et tout. » Genre, il avait vraiment une réponse très précise. J'avoue que moi, je n'ai pas trop... Enfin, si, des trucs de bouffe, quoi. Mais bon.
Bah là,
sinon,
faut pas parler
on va revenir sur des choses plus concrètes, sur peut-être des souvenirs. Est-ce que tu peux nous raconter, par exemple, une anecdote drôle d'une soirée où tu as pris un ou 2 verres d'étro, par exemple?
Ça, c'est la petite touche brésilienne, là.
Alors, oui. Alors, ça, je peux te raconter un truc très, très drôle.
Ah, voilà.
Et très honteux hein, pour moi, mais c'est pas grave. En fait, je suis allée passer des vacances en Corse chez mon meilleur pote Jules il y a 3 ans. Et on avait passé la journée avec ses 2 copines sur place. On a pique-niqué, on était au bord de l'eau, puis dans le maquis et tout. Et on a parlé un peu de tout. Donc, je leur ai dit que j'avais sorti un livre sur la pâtisserie, mon tout premier bouquin qui s'appelle « À la folie ». Et après, je leur racontais les bouquins que j'avais aimés récemment. Je crois qu'à l'époque, c'était « La tresse » que j'avais adoré ou je sais plus. Et elle me disait « Ah, super, on note et tout le livre que t'as kiffé. » Et puis le soir, on va boire des coups, je suis un peu pompette et tout. Et sur le chemin du retour, on tombe sur les filles. Et elles me disent « Ah, bah tu sais, on a commandé ton livre sur Amazon, trop bien, on a hâte de le recevoir et tout. » Et là, moi, je suis bourrée, c'est la première fois que j'ai des gens que je connais pas qui achètent mon livre. Et je pars en vrille, quoi. Genre, mais merci, mais je suis tellement touchée. Mais waouh, les filles, en plus, on a commandé 1 chacune. Il coûte quand même 25 €. Mais franchement, je suis trop touchée. Mais merci, quoi. C'est ouf parce qu'en plus, on se connaît à peine. Hein. Et là, je sens qu'il y a un décalage. Enfin, qu'elles comprennent pas trop ce que je veux dire et tout. Mon pote Jules qui me file un coup de coude et moi, je suis lancée, quoi. Genre, non, mais c'est bon, toi, lâche-moi, tu l'as même pas acheté mon livre. Regarde, tes copines, elles me connaissent depuis 5 minutes. Elles en ont déjà acheté 2, hein. Et au bout d'un moment, il y a un gros blanc et elles me disent « Non, mais le livre que t'as lu, là, que t'as kiffé, dont tu nous as parlé et tout. » Et là, vraiment, genre, mortifiée, quoi. Donc voilà, c'était pas encore le grand succès.
Ouais, ça se fait par étapes, mais
ouais.
Autre question qui vient de toi, de ta trame, c'est « Est-ce que tu t'aimes humainement et physiquement ?»
Ah ouais, celle-là, franchement, c'est ma préf à poser, mais chaud, hein.
Ouais, bah.
Physiquement, je pense que les meufs, on a toutes les mêmes réponses. Genre, il y a évidemment des trucs que j'aimerais changer et tout ça. En tant que personne, ce que je peux vous dire, c'est que je fais en sorte de pas m'en vouloir. Parce que j'ai une grosse tendance à culpabiliser et à m'en vouloir et donc à pas m'aimer quand je fais un truc de travers ou j'ai pas répondu ou je m'étais engagée à faire quelque chose et finalement je l'ai pas fait ou j'ai vexé quelqu'un parce que je suis grande gueule et tout. Et donc je fais de plus en plus attention à pas me retrouver dans cette situation parce que je sais que derrière je me le fais payer un peu trop cher quoi parce que j'ai tendance à beaucoup culpabiliser. Donc je fais en sorte de pas le faire et je fais en sorte d'être quelqu'un d'honnête, de gentil, de généreux, de présent pour mes copains et ma famille. Donc je pense pas être une mauvaise personne. Après c'est vrai que cette question elle est compliquée. Et puis il y a un truc qui est vrai, c'est que en France on est un peu pudique avec ça quoi. Ça se fait pas trop de dire bah ouais je me kiffe. Moi, j'en parlais avec Juan, qui est colombien et qui n'a pas du tout grandi avec les mêmes valeurs que nous. Il me disait, mais évidemment, enfin, en fait, il disait de toute façon, si je m'aimais pas moi-même, je pourrais pas aimer les autres, je pourrais pas aimer ma femme, je pourrais pas bien faire mon travail, je pourrais pas être bien avec mes équipes. Enfin, en fait, il a raison, c'est la base. Donc,
c'est très culturel, hein, t'as complètement raison. Hein.
Très culturel, ouais, voilà. Mais oui, en tout cas, j'ai pas de vrais problèmes de complexes, etc. Après, c'est sûr que. Il y a toujours des trucs qu'on veut changer. Il y a toujours une hanche qui est trop large par rapport à l'autre. Un petit...
et est-ce que tu es romantique, Raphaël ?
Ouais. J'adore l'amour. J'adore.
J'ai une question par rapport à ça. À quel âge tu as découvert l'amour, Raphaël ?
Bah, 2 ans à l'école maternelle.
Ah, Timothée, comme moi, pareil.
Je rigole.
S'il nous écoute, salut. C'est mon petit côté Michel Drucker. Autre question qui vient de ta trame encore. Est-ce que tu es religieuse ou religion ? Est-ce que tu crois ? Est-ce que tu es croyante ?
Non. J'ai pas eu d'éducation religieuse. Je crois que mes parents et mes grands-parents l'étaient pas non plus. Et je crois qu'ils s'étaient dit, alors que c'est complètement absurde quand on y repense, mais ils s'étaient dit, si elle veut être religieuse, elle le sera. On lui laisse le choix. En vrai, je pense que si t'es religieuse, c'est parce que dans la majorité des cas, t'as grandi là-dedans. Je connais pas beaucoup de gens qui sont révélés croyants à 18 ans alors qu'ils ont eu aucun pied là-dedans. De toute leur enfance. Mmh. Mais je crois que je le suis pas aussi parce que j'ai pas envie de me dire que en fait je crois que ça me fait plus peur qu'autre chose de me dire que voilà les choses sont prévues, que si ça doit arriver ça arrivera, que c'est tracé. Moi j'aime bien me dire que je suis responsable et que je suis libre et que ma vie elle est pas écrite quoi, c'est moi qui la dessine, donc je crois que ça me va bien en fait de me dire que je suis toute seule dans le bateau, mais la vérité c'est que quand il y a un coup dur, on se dit, c'est toujours dans ces moments-là qu'on croise les doigts, et même si croiser les doigts ça paraît anodin, c'est quand même un peu, donc je sais pas, c'est-à-dire que d'un côté je suis pas religieuse, d'un autre côté je suis capable d'avoir parfois un peu des superstitions ou des petites espérances et tout, donc mais au sens premier du terme, je suis pas pratiquante.
Ouais, pas pratiquante, c'est ce que j'ai à te dire. Ouais.
Et selon toi, quelle est ta principale qualité ?
Alors c'est un truc que je tiens de ma mère, mais elle vraiment c'est bluffant. C'est ce qui fait qu'elle a toujours été heureuse et qu'elle l'est encore. C'est la personne la plus joyeuse que je connaisse, c'est que je vois toujours le positif dans les situations, mais je m'en rends compte que depuis récemment. Mais j'ai vraiment hérité ça de ma maman et c'est cool, ouais, parce que parfois on est plusieurs dans une situation et puis je m'en rends pas compte et tout de suite je me dis bah en même temps le bon côté, alors que parfois franchement il y en a pas, c'est ça. Genre s'il fait super froid, qu'on a perdu les clés, qu'il pleut et que genre faut qu'on passe 3 heures en Bretagne à attendre que quelqu'un vienne nous ouvrir, je vais dire ouais mais tu sais ça fait circuler le sang, c'est bon pour le cœur. je sais pas pourquoi. J'ai ce truc là, je crois qui vient des gènes de ma mère et ça me sauve certaines situations. Ouais.
Ben super, on arrive Raphaël à la fin du podcast et on va parler quand même un petit peu bouffe hein, parce qu'on n'arrive pas à ne pas en parler complètement. On sait que tu finis toujours tes assiettes, mais on se posait la question, est-ce que tu goûtes toujours tes recettes avant de les poster sur Instagram?
Oh le piège.
On te laisse parler.
J'avoue Daniel, j'ai fauté. J'ai fauté clairement pendant ce confinement. Non, mais le truc, c'est que moi, mon Instagram, c'était plus pour parler des restos, des producteurs, des pêcheurs, des gens que je croisais dans le travail et dans la vie. Et donc, c'était pas du tout recette. Et j'ai commencé à en faire au début du confinement, mais j'étais pas trop habituée. Et c'est vrai que je me disais pas du tout, oh là là, si les gens comptent refaire la recette, faut quand même que je vérifie que ce soit bon. Je me disais, ouais, c'est pas mal, c'est un peu photogénique, je vais poster, tu vois. Mais t'es arrivé en effet de poster des trucs absolument infâmes, enfin très jolis, ouais. Mais immondes. Genre une tarte salée, mozzarella, sardine en boîte, moutarde et chou.
Et chou, c'est ça. L'assemblage est curieux, mais
j'imagine les gens qui sont allés acheter les ingrédients pour faire la tarte.
Mais les gens l'ont fait et ont commenté, genre ouais, moi c'était bof et tout.
ils ont pas osé te dire que c'était pas bon tout de suite.
Oui, ils ont dit mais peut-être tu t'avais pas précisé qu'il fallait faire des pickles avec le chou et tout. J'étais là, non, mais c'était. Voilà.
Et si on parle d'une de tes grosses actualités, la sortie de ton livre Passion Pique-Nique, c'est quoi un pique-nique parfait pour toi et quel a été le pique-nique que tu n'oublieras jamais?
Un pique-nique parfait pour moi, et c'est là que je me rends compte qu'on a tous une définition très très différente de la chose, c'est vraiment de partir en rando dans la montagne avec un sac à dos, des tonnes de bouffe à l'intérieur, moitié des trucs faits maison le matin, moitié des restes de la veille, moitié des choses qu'on a achetées en chemin chez les artisans et les producteurs ou les salaisonniers, parce que souvent c'est au Pays Basque, donc c'est quand même passion charcuterie. Et puis, d'abord une longue marche, et puis une fois qu'on a les mollets qui brûlent, qu'on transpire, qu'on commence à avoir mal au dos, qu'on a bien faim, on trouve un super spot, une belle vue, et là c'est vraiment le plus gros panard de l'histoire des panards, quoi. Moi, depuis que je suis gamine, c'est mon repas préféré, mon resto préféré, mon cadre préféré. Et puis, j'ai appris un truc récemment que je savais pas, c'est que c'est en effet ce qui va faire que tu vas t'en souvenir. Parce qu'en fait, ce qui crée des souvenirs, c'est l'activation des cinq sens. Et en fait, le pique-nique, c'est tout à la fois. Et c'est ce qui fait que tu t'en souviens. Et mon meilleur souvenir, ouais, c'est au Pays Basque. Alors, c'était une rando en VTT électrique. Donc déjà, ce qui est important de préciser, c'est que j'avais une tenue, tu sais, de cycliste dégueulasse. Hein, bretelles, hyper moulant. Puis hyper moulant, là, il faut pas, tu sais, le truc qui te saucissonne. Et en plus, et ça, c'est merci papa, imprimé vache. Voilà.
D'accord.
Ravissant. Et c'était trop bonne journée. Il y avait mes parents et mon amoureux. On est partis tous les quatre. C'était la présentation d'ailleurs de l'amoureux avec les parents. Il n'est pas parti, donc ça s'est bien passé. Et donc, on a fait 2-3 heures de vélo. On s'est arrêté bouffer au milieu des potiocs, des œufs mollets, du pâté basque, du gâteau basque et tout. Enfin, vraiment, je j'adore, quoi. Je peux faire ça tous les jours.
Merci à Raphaël et du coup dans 2 semaines sur Business of Bouffe pour la diffusion du premier épisode à côté de la plaque avec donc Guillaume Sanchez comme tu le disais tout à l'heure.
Exactement, j'ai hâte.
Merci beaucoup Raphaël.
Merci à vous. Salut.
À très vite, salut.
J'espère que cet épisode vous a plu, vous pourrez tous les retrouver sur Business of Bouffe 2 fois par mois. D'ici là, continuez à bien manger en parlant d'autre chose.